Il est 6h à Paris, 4h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Arthur et bonjour à tous. Dans ce journal, l'armée israélienne a frappé à de multiples reprises cette nuit des sites militaires et nucléaires iraniens. Frappe qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz a notamment été visé. Le numéro 1 des gardiens de la révolution a été tué. On fera le point dans un instant avec notre correspondant à Téhéran. Vous entendrez également le chef d'état-major de l'armée israélienne qui met en garde la population contre une riposte iranienne. À l'instant, le patron de l'ONU lance lui un appel à la retenue maximale. Dans ce journal aussi, l'Assemblée générale de l'ONU qui demande un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Adoption cette nuit à une très large majorité. Le premier ministre indien Narendra Modi est en ce moment sur le site du crash du Boeing d'Air India qui a fait hier matin au moins 265 morts. Et puis, nous serons également au Mali dans ce journal où les opposants à la junte sont désabusés après l'adoption du projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. L'armée israélienne a donc frappé ce matin des dizaines de sites à travers l'Iran, des bombardements sur des installations du programme nucléaire iranien et sur d'autres sites militaires. Au moment où les négociations débutaient mi-avril avec les États-Unis sur le nucléaire iranien sont, elles, dans l'impasse. Washington dit cette nuit ne pas être impliqué dans ces frappes. Siavosh Ghazi, vous êtes en direct avec nous de Téhéran. Ces frappes, Siavosh, elles ont tué le numéro 1 des gardiens de la révolution iranienne.
Absolument, le général Hossein Salami a été tué dans une frappe contre le quartier général des gardiens de la Révolution à Téhéran. Un autre général des gardiens de la Révolution, le général Rachid, a également été tué. D'autres responsables ont également été visés, notamment Fereydoun Abbasi, un ancien chef du programme nucléaire iranien, ainsi que d'autres scientifiques du nucléaire. C'est une vaste opération qui a été menée par l'armée israélienne, puisque, par exemple, le site de Natanz, le site d'enrichissement de Natanz, qui est le principal site d'enrichissement du pays, a été frappé à deux reprises. Un autre site, le site de Khondab, dans le centre du pays, a également été visé. Des sites militaires à la frontière avec l'Irak ont également été frappés. C'est de ces endroits-là, de ces régions-là, que l'Iran avait lancé des missiles balistiques contre l'État hébreu dans deux opérations différentes il y a quelques mois. Visiblement, Israël a non seulement frappé des sites nucléaires, mais aussi militaires. Et puis, dans certains quartiers à Téhéran, des quartiers résidentiels, il y a eu aussi des frappes, des bâtiments, on a pu le voir, des immeubles éventrés, des quartiers résidentiels militaires. Par exemple, pour les membres des forces militaires, des gardiens de la Révolution ont été visés. Donc, on dénombre un nombre important de morts et de blessés à Téhéran, mais aussi dans les villes de province.
Siavosh Ghazi, merci beaucoup. En direct de Téhéran, les forces armées iraniennes ont promis une réponse forte à venir. L'Iran qui a fermé son espace aérien, tout comme l'Irak voisin côté israélien. L'état d'urgence a été décrété dans le pays. Benjamin Netanyahou a annoncé que l'opération contre les sites nucléaires iraniens durerait autant de jours que nécessaire. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a lui mis en garde les Israéliens contre une riposte à venir. Écoutez.
Citoyens d'Israël, je ne peux pas promettre un succès absolu. Le régime iranien tentera de nous attaquer en riposte et le bilan attendu sera différent de ce à quoi nous sommes habitués. L'armée israélienne est prête à défendre le territoire israélien et je vous demande d'être responsable pour vous-même, pour votre famille et pour vos communautés et d'écouter les instructions.
Et le chef d'état-major de l'armée israélienne. Côté américain, on l'a dit, Washington affirme ne pas avoir aidé Israël dans ses opérations. Donald Trump dit rester engagé à régler de manière diplomatique la question du nucléaire iranien. Le secrétaire d'état américain Marco Rubio a parlé d'une opération israélienne unilatérale. Le Conseil de sécurité nationale américain se réunira, lui, dans la journée, annonce de la Maison-Blanche. À l'instant, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, lui lance un appel à la retenue retenue maximale. On va évidemment revenir sur la situation entre l'Iran et Israël dans le journal international de 7h. Et puis vous suivez la situation sur le live RFI.fr avec les toutes dernières informations et les interventions de nos correspondants. Un soutien massif pour demander un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza et la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas. C'était cette nuit à l'Assemblée générale de l'ONU. 149 voix pour, 19 abstentions, 12 voix contre. La semaine dernière, les États-Unis avaient bloqué l'adoption d'un texte similaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte adopté ces dernières heures appelle également au retour des prisonniers palestiniens détenus par Israël et au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. À New York, le récit de Karine Houghton.
Cette résolution de l'Assemblée générale n'est pas contraignante. Elle n'exposera donc ni Israël ni le Hamas à des sanctions s'ils ne la respectaient pas. Mais ce vote a un poids politique. Avec seulement 10 soutiens, essentiellement des îles du Pacifique, les États-Unis et Israël sont apparus isolés. L'Espagne a proposé ce texte alors que le blocage de l'aide humanitaire à Gaza s'éternise. Les pays arabes ont été très vocaux, comme la Libye, qui a appelé à une urgence morale globale de stopper ce génocide du 21e siècle. Israël a dénoncé un texte biaisé, qui rejette toute la faute sur son pays et ne dénonce pas suffisamment les crimes du Hamas. L'ambassadeur palestinien a lui appelé à faire pression par des boycotts contre Israël. Ce vote donne le ton alors que le sommet franco-saoudien sur la solution à deux États doit se tenir la semaine prochaine à New York. Washington a exhorté les pays à ne pas y participer et prévient que ceux qui prendront des mesures anti-israéliennes d'ici là pourraient en subir des conséquences diplomatiques. Karine Houghton, New York, RFI.
À l'écoute d'RFI, 6 heures passées de 7 minutes en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi est en ce moment sur le site du crash du Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Air India qui s'est écrasé hier matin dans une zone densément peuplée d'Ahmedabad. Il n'y a qu'un seul survivant, au moins 265 morts, dont plus d'une vingtaine de personnes tuées alors qu'elles se trouvaient au sol sur le site du crash. Un crash survenu peu après le décollage de l'appareil. Le constructeur américain Boeing s'est dit prêt à aider Air India. Beaucoup de questions au lendemain de ce drame car l'appareil était récent. Nicolas Feldman, c'est en tout cas un nouveau coup dur pour le constructeur américain.
Dès son lancement en 2011, le Boeing 787 révolutionne le marché du long courrier. Plus grand, plus économe en carburant que les précédents avions, l'appareil bat très vite des records. Avec plus de 2500 commandes, il est adopté par 80 compagnies dans le monde. Ces dernières années, pourtant, le 787 enchaîne les déconvenues. En 2021, des problèmes de fuselage sont détectés sur certains appareils. Sa production est suspendue pendant 2 ans. L'année dernière, un 787 qui relie Sydney à Auckland subit un trou d'air. 12 passagers sont hospitalisés. La compagnie chilienne qui opère le vol parle d'un incident technique. Si le crash d'hier en Inde est une première pour un modèle 787, il s'ajoute à une série d'accidents mortels sur d'autres appareils Boeing. En 2018 et en 2019, ce sont 2 avions des 737 MAX qui s'écrasent en Indonésie et en Éthiopie. 346 personnes perdent la vie. Le mois dernier, l'entreprise a trouvé un accord avec la justice américaine dans ces 2 crashs. Pour s'éviter un procès au pénal, Boeing a réglé une amende de plus de 1 milliard de dollars.
Nicolas Feldman. Aux États-Unis, une cour d'appel américaine vient d'autoriser le président Donald Trump à maintenir son déploiement de la garde nationale à Los Angeles, suspendant temporairement une décision d'un tribunal inférieur. Un juge américain avait en effet ces dernières heures interdit au président de déployer des membres de la garde nationale à Los Angeles, la Californie, où l'inquiétude reste très forte au sein de la communauté latino-américaine, dans les rues de Los Angeles évidemment, mais également dans les zones rurales. Depuis mardi, les travailleurs agricoles sont également visés par les rafles de l'administration fédérale, des raids effectués dans des fermes et des exploitations où sont employés des dizaines de milliers de travailleurs sans papier. Elisabeth Strater est la vice-présidente du syndicat UFM qui défend les droits des ouvriers agricoles.
La communauté des travailleurs agricoles est en état d'alerte maximale. Il y a beaucoup de peur parmi les ouvriers. Nous assistons à ce qui ressemble à une campagne ciblée pour terroriser ces communautés, avec des hélicoptères qui survolent les champs pour les effrayer. Les familles de travailleurs agricoles ont peur et changent leurs habitudes. Les parents qui travaillent en temps normal au même endroit évitent maintenant de le faire pour que l'un d'eux puisse s'occuper des enfants en cas de rafle. Mais malgré tout, après un jour ou deux, ils vont revenir travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce ne sont pas des gens qui ont des activités criminelles, ce sont des gens qui travaillent dur et qui essaient seulement de nourrir leur famille. En fin de compte, aussi effrayés soient-ils, ils continueront d'aller travailler comme ils l'ont toujours fait.
Elisabeth Strater, vice-présidente du syndicat UFM, joint par Daniel Valot. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le Mali où un projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. C'est la situation sécuritaire dans le pays et au Sahel qui est invoquée. Ce maintien au pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition sans élection et sans limite de temps avait été proposé fin avril à l'issue des concertations des forces vives de la nation orchestrées par les autorités de transition. Après l'officialisation du projet de loi, les responsables des partis politiques maliens, officiellement dissous le mois dernier, expriment une colère aussi vive que désabusée. David Bachy.
Nous hésitons entre indignation et indifférence, décrit un ancien ministre, tant cela était prévisible et tant nous n'attendons plus rien des autorités. Alors qu'ils avaient promis de sécuriser et de réformer le pays avant d'organiser rapidement des élections, un dirigeant de parti dissous note que les militaires au pouvoir se révèlent être un autre genre de politicien. Rappelant tous les calendriers électoraux souverainement fixés et souverainement violés, cette source interroge : quel politicien civil a autant trahi ? Plusieurs opposants notent le caractère anticonstitutionnel du projet de loi et d'un tel maintien au pouvoir sans élection, mais ne se font plus d'illusions. La réelle intention des militaires est de rester au pouvoir, constate désabusé un ancien ministre. Le reste n'est que de l'habillage. Au moment où nos soldats sont massacrés, ils ne pensent qu'aux délices que le pouvoir usurpé leur procure, fustige un autre ancien ministre, qui dénonce un nouveau coup d'État, cette fois-ci constitutionnel. Le Mali vaut mieux qu'un mandat volé, poursuit ce pilier du mouvement pro-démocratie. Mais le peuple, tôt ou tard, leur retirera ce qu'ils ont cru pouvoir garder par la force. Nous abordons l'une des phases les plus sombres de notre pays, pose enfin un cadre de l'opposition, qui appelle à résister par tous les moyens possibles.
David Bachet, du service Afrique RFI. C'est une étape de plus dans le bras de fer entre Bruxelles et Moscou. Les Européens actent définitivement la taxation progressive des engrais russes. À partir du 1er juillet, Bruxelles va progressivement surtaxer les engrais azotés russes et biélorusses jusqu'à atteindre des tarifs prohibitifs en 2028 afin de définitivement couper le robinet. L'objectif, évidemment, priver Moscou d'une manne qui contribue à financer la guerre en Ukraine. Anne Verdaguy.
Plus de 3 ans après l'invasion de l'Ukraine, il faut cesser d'alimenter la machine de guerre de Vladimir Poutine et limiter la dépendance des agriculteurs européens, estime Bruxelles. L'enjeu est de taille car l'Union européenne a consommé 6,2 millions de tonnes d'engrais russes l'an passé, soit un quart de ses importations d'engrais. Les taxes seront augmentées progressivement, un droit de douane de 6,5% pour commencer, auquel s'ajoutera une taxe comprise entre 40 et 45 euros. Pour Moscou, les Européens se tirent une balle dans le pied et vont se retrouver avec des engrais plus chers. Les agriculteurs européens craignent en effet une envolée des prix mondiaux, mais Bruxelles assure que le marché sera étroitement surveillé. L'Union européenne vise surtout une augmentation de la production régionale. La taxation des engrais russes est d'ailleurs applaudie par les industriels européens qui dénonçaient une concurrence déloyale de la Russie.
Anne Verdaguy. L'actualité en France, le leader indépendantiste kanak Christian Théin a quitté hier soir la prison de Mulhouse, où il était en détention depuis près d'un an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024. Sa libération avait été prononcée quelques heures plus tôt par la Cour d'appel de Paris. Christian Théin, sous contrôle judiciaire, a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et de contacter d'autres protagonistes du dossier. Et puis toujours en France, Aya Nakamura, l'une des chanteuses francophones les plus écoutées au monde, a dévoilé hier son double de cire au musée Grévin à Paris, près d'un an après avoir participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. 6 mois de travail ont été nécessaires pour créer la statue de l'interprète de Pookie et Copine, a détaillé le musée Grévin, précisant que le public pourrait la découvrir dès aujourd'hui.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
À 6h14 à l'écoute de la Radio du Monde. Vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'au prochain journal dans 20 minutes et avant le début d'RFI Matin avec Julien Coquel-Roem. On vous emmène dans un instant en Irlande où le chamanisme celte fait de plus en plus d'adeptes. L'appel correspondant, nous serons à Barcelone ce matin où des dizaines d'artistes boycottent le festival de musique électronique Sonar. Boycott en soutien aux Palestiniens. L'invité culture à suivre aussi, le chanteur français Joseph Chédid sera au micro d'Edmond Sadaka et puis on parle d'albinisme dans le Conseil Santé. Ce sera avec Raphaël Constant. Direction d'abord l'Irlande où elle séduit de plus en plus d'habitants. La pratique du chamanisme est en hausse avec un nombre croissant d'adeptes dans un pays certes catholique mais dont les scandales ont ébranlé la place de l'Église. Alors certains Irlandais se tournent vers cette forme ancestrale de spiritualité. Reportage de notre correspondante Clémence Pénard qui a participé à un rituel en plein air.
Un dimanche soir baigné par la pleine lune sur la plage de Killarney. À 1 heure au sud de Dublin, un feu crépite, la sauge embaume l'air et plus d'une centaine de personnes prennent place pour un rituel de guérison, une méditation guidée portée par le battement hypnotique des tambours.
Nous allons entreprendre un voyage vers l'île de nos ancêtres. Nous allons laisser les tambours nous y conduire, comme un cheval au galop.
Christine Higgins est chamane. Elle est suivie par 18 000 personnes sur Instagram où elle fait la promotion de ses cercles de guérison spirituelle. Et elle est loin d'être la seule sur les réseaux sociaux. Une simple recherche en ligne révèle plus d'une centaine de chamanes en activité en Irlande.
Il y a des milliers d'années, c'est ainsi que nous vivions. Nous étions connectés à la Terre-Mère. Nous vénérions le soleil. Et en Irlande en particulier, nous étions très liés à la vie païenne. Beaucoup d'entre nous suivaient les rythmes de la nature. Nous avons un riche folklore. Nous avions des druides, nous étions profondément liés au côté mystique de l'Irlande.
Ainsi, le chamanisme fondé sur la nature est perçu aujourd'hui comme une renaissance de ces anciens rituels.
Avec l'arrivée du catholicisme en Irlande, un effort concerté a été déployé pour éradiquer ces pratiques considérées comme primitives.
Leisha Redmond-McGrath, guérisseuse chamanique celtique.
Mais le monde a évolué. Nous observons en Irlande notamment un déclin marqué de la fréquentation des églises et de la foi catholique. C'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles le chamanisme refait surface aujourd'hui. Les gens restent en quête de sens, d'une vie authentique, de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et je crois que le chamanisme répond à cet appel.
Et Leisha, également psychologue et coach auprès de dirigeants de grandes entreprises de Dublin, insiste : être chaman ne signifie pas forcément vivre reclus dans la montagne.
Quand les gens apprennent que je suis chaman, parfois ils s'imaginent que je vais débarquer en plume, tu vois le tableau. Mais non, en réalité, beaucoup de mes clients viennent du monde de l'entreprise. Au début, ils me le demandent presque en chuchotant. Est-ce que je pourrais faire un peu de travail chamanique ? Dès qu'ils voient que je ne suis pas une illuminée perchée.
Mais l'engouement actuel autour des pratiques chamaniques peut aussi ouvrir la porte aux dérives et arnaques. Sur la plage de Galway de Killarney, les tambours ont cédé la place à la musique et les plus audacieux s'offrent un dernier rituel, un plongeon rafraîchissant dans la mer, histoire de revenir à ses esprits. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Place à l'appel correspondant. Nous appelons Barcelone ce matin où se tient jusqu'à dimanche le festival Sonar, 32e édition, une référence de la musique électronique. Mais ce rendez-vous est cette année dans la tourmente. Élise Gazangel, vous êtes à Barcelone. Plusieurs artistes et spectateurs ont en effet annulé leur venue. Ce qui est en cause, ce sont les liens financiers entre le festival et l'État israélien.
En effet, le Sonar est détenu par une entreprise rachetée l'été dernier par KKR et c'est de là que vient le problème pour de nombreux artistes et collectifs. KKR est un fonds qui investit dans l'armement israélien. Il est aussi un promoteur immobilier de colonies israéliennes qui occupent les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Le mouvement mondial BDS pour boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël a alors appelé les artistes et le public à ne pas se rendre au festival tout en réclamant aux organisateurs de se positionner. Résultat, au total, près de 50 artistes ont annulé leur venue, dont la DJ Arca, le français Rhône et le collectif La Horde, les danseurs du ballet de Marseille, ou encore Asia et Paquita Gordon.
Alors comment a répondu le festival ?
Eh bien, tant bien que mal, les organisateurs ont multiplié les communiqués ces dernières semaines en essayant de freiner les dommages et en répondant notamment aux demandes des collectifs, des artistes et du public. Sur leur site, ils assurent que KKR n'a aucun pouvoir décisionnel sur le festival, que le fonds ne reçoit pas un seul euro de cet événement, mais aussi que le Sonar condamne le génocide des Palestiniens. En outre, il s'est engagé à rembourser les festivaliers qui refusent d'y aller, a reprogrammé une vingtaine de nouveaux artistes et inaugure même ce vendredi un espace de débat au sein du festival. Malgré ces efforts reconnus par les associations et les artistes, le boycott a été maintenu.
Et ce boycott, cette polémique a été très commentée en Espagne, Élise.
Oui, d'abord au niveau politique, parce que l'Espagne se positionne depuis des mois comme la figure européenne de défense de la cause palestinienne. Ernest Urtasun, ministre de la Culture, s'est dit inquiet de cette présence de KKR, qui possède plusieurs autres festivals dans le pays, tout en affirmant qu'il n'était pas le bienvenu en Espagne. Et d'autres festivals ici appartenant à ce fonds, comme le FIB de Benicassim, qui aura lieu en juillet, sont aussi visés par un boycott. En attendant, le sujet fait la une des médias. Daya Shihab, artiste irakienne interviewée ce mercredi dans El País, qui a annulé sa venue au Sonar, exprimait sa tristesse de ne pas moralement et éthiquement pouvoir y assister, tout en célébrant le fait que cette controverse ici a ouvert un débat sur le financement d'événements culturels.
Élise Gazangel, merci. C'était l'appel correspondant sur RFI. Il est chanteur et musicien, tout comme son père Louis, son frère Mathieu et sa sœur Nash. Joseph Chédid est en tournée en ce moment. Il sera en concert demain près de Lille. Il interprète notamment les titres de son dernier album en date, Hey Friend, et il est l'invité d'Edmond Sadaka.
Bonjour Joseph Chédid.
Bonjour.
Votre disque démarre par la chanson « Le syndrome du mauvais monde ». Comment le définiriez-vous aujourd'hui, ce mauvais monde ?
La folie de certains êtres qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir dans notre monde, la violence omniprésente partout.
Mais ça reste une chanson optimiste, malgré tout.
Justement, cette chanson, elle dit aussi que quand on a l'essentiel, quand on a de quoi manger, quand on a un toit sur la tête, quand on a des gens autour de nous, et ben à un moment, on a finalement l'essentiel pour être heureux.
Rigolade majestueuse, des âmes lumineuses, chaque vie a le droit d'être vertueuse. Le regard légendaire de ceux qui considèrent les racines des arbres séculaires. Ouh. Changez-moi de vision, je ne veux plus de ces interférences.
Alors on entend Joseph Chédid, la voix de votre père, Louis Chédid, sur l'un des titres. Et puis on entend beaucoup de guitare électrique sur cet album. Clin d'œil sans doute à votre frère Mathieu Chédid. Les influences familiales sont donc très, très présentes.
Voilà, mon père m'a quand même vachement initié à la chanson. Je pense que c'est quelque part, c'est lui qui m'a transmis le fait de faire des chansons. Et mon frère m'a vraiment donné le goût de la guitare amplifiée, du côté plus scénique, plus solo de guitare. Il m'a fait découvrir Hendrix, toute la scène des années 70, dans laquelle je me suis complètement reconnu. J'ai plongé complètement là-dedans. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup la guitare aussi. Et c'est un instrument dont je me sens très proche.
Pelleté, pelleté. S'aimer, semer, ce qui me vient de toi, ce qui me vient de toi.
Joseph Chédid, vous avez créé votre propre label. Ça veut dire que vous avez pris votre indépendance face aux maisons de disques.
C'est vraiment ça, parce que déjà, je crois que quand on est un peu trop libre et qu'on sort un peu des cases et des attentes, c'est très difficile d'être accompagné par ce métier. C'est comme ça, ça me dérange pas plus que ça. Je crois que moi, j'ai besoin d'explorer des choses et de pouvoir passer d'un morceau rock à un morceau plus doux, à un morceau peut-être plus pop, même pourquoi pas un morceau reggae. Et donc voilà, quand on sort un petit peu des cases, il faut être indépendant, il faut être libre. Alors ça pose des questions de comment trouver son équilibre, etc. Et puis j'aime produire aussi, j'aime réaliser pour d'autres et tout ça. Donc c'est aussi, voilà, ça me permet de pouvoir envisager des collaborations pour mes projets artistiques et aussi, pourquoi pas, pour de futurs autres projets.
Merci, Joseph Chédid.
Merci.
Pourquoi je ne vois que du noir ? Pourquoi ces pensées dérisoires ? Moi, je veux vivre, vivre.
Pourquoi, extrait de Hey Friend, le dernier album en date de Joseph Chédid.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et ce matin, Raphaël Constant nous parle de la maladie de l'albinisme.
Docteur Fanny Maurice Picard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue au Centre de référence des maladies rares de la peau et au service dermatologie du CHU de Bordeaux. Docteur, comment les personnes atteintes d'albinisme peuvent se protéger des risques liés à la maladie ?
D'abord, il faut savoir que l'albinisme, c'est deux principales manifestations, hein. L'atteinte visuelle, donc là, l'atteinte visuelle, c'est le fait que les enfants puissent évoluer avec un vrai déficit visuel. Et pour cela, il est important de proposer une surveillance ophtalmologique la plus précoce possible. Et d'autre part, on sait que ce sont des patients qui vont, du fait de l'absence de pigments de la peau, être très sensibles au soleil. Et donc, une des façons les plus importantes pour se protéger des complications de l'albinisme, c'est de se protéger du soleil pour éviter que la peau ne s'abîme trop avec le temps. Et plus on commence tôt, plus finalement la peau restera belle et en bon état.
Donc se protéger avec des crèmes solaires, des vêtements longs, un chapeau, des lunettes. Est-ce que les enfants doivent avoir un suivi médical dès le plus jeune âge et pourquoi ?
Alors il y a d'une part la prévention par rapport au soleil, donc finalement le suivi va faire que si les enfants et leurs parents sont informés du besoin de se protéger du soleil, ben, je pense qu'on va vraiment limiter l'évolution vers les complications dermatologiques. Et donc ça, c'est important de faire cette prise en charge très précocement. Et sur le plan ophtalmologique, on sait maintenant que le fait de corriger assez tôt les troubles de la réfraction permet de stimuler et d'améliorer le fonctionnement visuel. Donc on a tout intérêt, effectivement, à ce que les patients soient pris en charge précocement.
Merci pour ces conseils, docteur Fanny Maurice Picard. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, comment lutter contre la sédentarité et se mettre au sport. Rendez-vous à 9h10, temps universel.
Et à tout à l'heure, c'était Raphaël Constant. Il est 6h27 à l'écoute d'RFI. Le journal, ce sera dans 3 minutes, mais avant un peu de musique avec l'extrait de la playlist des programmateurs d'RFI. Tout de suite, Caroline. Lina Katoun, Ina Yelmar sur RFI.
Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena, el silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua del viento y de sal te requiembra el alma y te está llevando y te pasas y allá como en sueños dormido. Alfonsina, vestida de mar, cinco sirenitas te llevarán
Ina y el Mar de la chanteuse mexicano-suisse Carolina Catoon, extrait de la playlist d'RFI, playlist que vous retrouvez à tout moment sur le site musique.rfi.fr. Bon réveil à tous, vous restez avec nous, le journal dans 30 secondes sur la Radio du Monde.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.